depuis l'annonce de l'accord cadre intervenu entre les États-Unis et l'Iran, enfin qui va intervenir puisqu'il devrait être signé après-demain théoriquement, les chancelleries européennes ne cachent pas leur satisfaction. Plusieurs dirigeants du vieux continent se réjouissent ainsi de voir aussi le président américain tancer le premier ministre Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien bien sûr, sur le dossier libanais. On parle de tout cela ce matin, vous en parlez Jonathan, avec Rémi Daniel, il est chercheur à l'Institute for National Security Studies. On écoute son avis.
Rémi Daniel, bonjour.
Bonjour.
Depuis l'annonce de l'accord cadre entre les États-Unis et l'Iran, on entend certains dirigeants et représentants européens se réjouir de cet accord, se féliciter de cet accord. Pourquoi les dirigeants européens se réjouissent de cet accord alors qu'ils n'ont pris part à aucune discussion depuis plus de 3 mois déjà? Alors que vous le rappelez aussi dans votre tribune publiée par l'Institut Jean Jaurès, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne avaient pris part aux discussions sur le nucléaire iranien, c'était en 2015.
Oui, alors je pense que vous avez raison de souligner une situation un peu complexe pour les Européens. Pourquoi est-ce que les Européens sont contents que cette guerre s'arrête? C'est assez clair, c'est parce qu'ils payaient un prix économique qui risquait d'être de plus en plus lourd à cause de cette guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Donc cette idée que peut-être que les perturbations, notamment liées à la fermeture du détroit d'Ormuz, pourraient prendre fin, peut-être pas immédiatement, mais à court terme, c'est pour les Européens une très bonne nouvelle. Mais par contre, vous avez raison de dire que cette guerre et cette fin de guerre marquent l'impuissance européenne, puisque c'est finalement un événement que les Européens n'ont pas choisi, n'ont pas voulu, n'ont pas contrôlé. Et ils ne l'ont même pas arrêté finalement, puisque ce qu'on a vu, c'est une médiation pakistanaise et pas européenne qui arrive à mettre fin pour l'instant aux affrontements entre les États-Unis et l'Iran.
Alors les dirigeants européens, certains anciens diplomates ou même actuels diplomates en profitent pour souligner aussi la défaite d'Israël et du Premier ministre Netanyahou. Est-ce que cette joie européenne est justifiée et est-ce que vous pensez qu'Israël doit s'inquiéter d'une future présence européenne, notamment dans la région du Golfe?
Je pense qu'en effet, les Européens sont contents pour deux raisons. Tout d'abord, dans les discussions qu'il y a eu entre les Européens et les Israéliens sur le dossier iranien, alors que les deux étaient parfois d'accord sur l'existence d'une menace iranienne, les Israéliens ont toujours dit que la solution diplomatique n'était pas suffisante, alors que les Européens ont passé leur temps à dire que l'utilisation de la force n'était pas suffisante. Et cette fin de la guerre, qui semble un peu quand même être une défaite à la fois pour les États-Unis et pour Israël, semble pour les Européens être la preuve qu'ils avaient raison et qu'on ne peut pas régler le dossier iranien que par la force. D'un autre côté, on voit en effet l'augmentation des tensions entre les États-Unis et Israël, entre Trump et Netanyahou. Et je ne sais pas si ça fait plaisir aux Européens, mais ce qui est sûr, c'est que ça fragilise Israël, dans la mesure où Israël apparaît maintenant non seulement comme isolé, mais en plus abandonné par son plus grand allié. Et donc on risque de voir dans le Golfe, mais même je pense dans les relations entre les Européens et Israël, une position européenne plus hostile à Israël, parce que les Européens craignent moins une réaction américaine en soutien à Israël, après les mots très durs qu'on a entendus, notamment de la part de Trump vis-à-vis de Netanyahou.
Quel rôle pourrait jouer à l'avenir l'Europe au Moyen-Orient et a-t-elle les moyens de jouer un rôle majeur dans cette région? On a entendu le président de la République, Emmanuel Macron, proposer son aide dans les prochaines discussions entre les États-Unis et l'Iran. L'Europe peut-elle faire plus que ça?
Alors, l'Europe propose son aide dans beaucoup de dossiers. Peut-être que l'une des choses à suivre, c'est que les Français et les Britanniques essayent de créer une coalition qui permettrait de sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que maintenant que la partie de conflit autour du détroit d'Ormuz et de fermeture du détroit d'Ormuz est terminée, les Européens se sont engagés, avec des alliés d'ailleurs qui ne sont pas forcément tous européens, à prendre un rôle de maintien de la paix dans cette région. L'autre point important, et ça nous ramène un petit peu à la question précédente que vous m'avez posée, c'est la question du Golfe. On sait, certains pays du Golfe sont un peu déçus de la protection américaine qui n'a pas eu l'effet attendu lors de ce dernier affrontement. Et on pense, certains pensent, et en Europe on espère, que les pays du Golfe vont essayer de diversifier leurs alliances, et cela pourrait ouvrir un espace pour les Européens Peut-être pas forcément pour jouer un rôle très important dans le Golfe, parce que les Européens ont souvent répété que ce que les États-Unis ne pouvaient pas faire, ils ne pouvaient pas le faire non plus. Mais peut-être une augmentation de la coopération, des opportunités aussi pour l'industrie militaire européenne, la réaction et la réévaluation par les pays du Golfe de leur stratégie pourraient jouer en faveur des Européens.
Vous faites mention d'une chose intéressante dans votre tribune, c'est les relations au plus bas entre l'Iran et l'Europe. Expliquez-nous.
Alors, ce qui est assez intéressant d'un point de vue israélien, c'est que pendant des années, les Israéliens ont essayé d'alerter les Européens sur le danger iranien, en présentant notamment ce danger comme n'étant pas seulement lié à la menace nucléaire, mais aussi à l'utilisation de proxy, au soutien du terrorisme international, etc. Les Européens ont mis du temps avant d'accepter cette idée. Et ce qui a beaucoup changé, c'est la guerre en fait en Ukraine et la création d'un axe très fort Iran-Russie et le fait qu'on a vu par exemple des Iraniens soutenir les efforts des Russes dans la cybercriminalité. On a vu des drones iraniens frapper l'Ukraine et ça a augmenté la conscience parmi les capitales européennes que l'Iran était un danger à multiforme. Cependant, comme ce que j'ai dit, il y a un accord sur l'idée de danger iranien. La manière de faire face à ce danger reste un point de différend très important entre Européens et Israéliens.
Vous avez fait mention du conflit entre Moscou et Kiev. Les principaux dirigeants du monde sont réunis en ce moment du côté d'Évian pour le sommet du G7. Pensez-vous que le dossier du conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait permettre de se faire aussi rapprocher les positions entre Européens et Américains cette fois?
Ça là, reste à voir. Ce qui est assez intéressant, d'une certaine manière, c'est qu'on peut dire que il est arrivé à Netanyahou ce que Trump a essayé de faire à Zelensky, hein. D'une certaine manière, Trump, dans les deux cas, veut mettre fin à la guerre, veut arriver très vite à un accord. Et Netanyahou a dû céder à Trump. Zelensky n'a pas cédé. Donc, il reste encore un peu des tensions et des différends entre une vision américaine qui cherche à arriver à la paix au de concessions importantes et les Ukrainiens qui ont le soutien encore de la majorité des Américains, des Européens, pardon, et qui veulent continuer la guerre et qui veulent faire zéro concession à Moscou ou le moins de concessions possible. Ce qui est sûr, c'est que on voit que dans l'idée des Américains, maintenant que le conflit au Moyen-Orient est réglé, on peut se reporter sur le conflit en Ukraine. Est-ce qu'on va avoir un accord entre Européens et Américains au G7, ça reste, à mon avis, encore un petit peu compliqué.
Rémi Daniel, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.